Mais je vais jamais y arriver. J'ai trop de trucs à faire.
Oh, mais calme-toi, Mimi. Viens, on va se mettre ensemble dans le canapé. On va écouter la JT du local. Ça va te changer les idées.
Dans cette émission, on aime beaucoup cet espace qui, avec des mots, des corps en mouvement, des histoires, nous permet de trouver la place que l'on aimerait prendre, de trouver parfois un ami, quelqu'un qui nous ressemble, ou encore de regarder l'autre ou le monde avec des yeux un peu mouillés, touchés par ce que l'on ne voyait pas, ne comprenait pas, ne connaissait pas. Cet espace, c'est la scène, le théâtre, et mes invités d'aujourd'hui vont justement nous raconter une histoire. À mes côtés, Anne Chamaret et Pierre Chauveau de la compagnie Moulin en Herbe. Bonjour à vous deux, merci d'être avec nous aujourd'hui.
Bonjour.
Bonjour,
merci de nous accueillir.
Ouais. Avec plaisir. Dans quelques instants, donc, on parlera ensemble de la pièce qui se jouera très prochainement au studio à Laval, La mécanique du Petit Pierre. De Petit Pierre, un récit poétique inspiré de la vie d'un homme et pas n'importe lequel. Vous verrez, on en parle dans quelques secondes. Mais je ne suis pas seule. Avec Anne et Pierre, je suis aussi avec toi, Lucie. Tu es avec nous dans le studio de l'autre radio aujourd'hui. Bonjour à toi.
Bonjour.
On t'écoute en seconde partie d'émission pour l'actu en bref, et ce n'est pas tout. Aujourd'hui, on aura le plaisir de découvrir la deuxième partie de l'échange entre Soizic et Mickaël Lepage qui aborde les questions d'actualité autour de l'agriculture. Et pour terminer cette émission, cette agité du local, on écoutera notre chroniqueur du jour, Donatien, que l'on retrouve chaque mardi dans cette agité du local. Eh bien, je le disais tout à l'heure, nous sommes avec Anne et Pierre. Merci d'être avec nous. Vous faites tous les deux partie de la compagnie du Moulin en Herbe. Mmh. Et donc, vous êtes ici aujourd'hui pour nous parler de la pièce de théâtre musical « La mécanique de Petit Pierre ». Alors, j'ai envie de rappeler quand même les dates auxquelles vous la jouerez. Le 4, le 5, le 6, le 7 mars à 16h et le 6 mars également, vous ferez une représentation à 20h30. On rappellera ces dates en fin d'interview pour que nos auditeurs puissent bien les noter. Mais pour commencer, j'ai peut-être envie que vous nous parliez de Pierre Avezard. Qui est Pierre Avezard qui a inspiré ce projet-là?
Alors, Pierre Avezard est un homme qui est né en 1909. Atteint d'un syndrome qui s'appelle le syndrome de Treacher-Collins, qui fait qu'il était quasiment sourd parce qu'il avait un conduit auditif qui était complètement déformé, aveugle d'un œil et l'autre ne voyait quasiment pas, une déformation du palais, quelqu'un qui physiquement pourrait être qualifié de laid, mais qui était très intelligent. Il a eu la chance de grandir dans une famille aimante avec des parents et une grande sœur qui l'aimaient beaucoup et qui l'ont aidé à grandir, parce qu'à l'époque, vous imaginez bien que les orthophonistes, les médecins, ça n'existait pas. Et donc, il est allé à l'école très peu. Il a été beaucoup harcelé, moqué par ses camarades de classe. Donc, il a dû aller à l'école environ 2 ans. Et il est devenu garçon vaché, donc quelqu'un de très humble. Sa grande sœur Thérèse lui a appris à lire et écrire un petit peu. Et plus tard, son frère cadet, Léon, de 17 ans, son cadet, est lui-même devenu ingénieur à l'aérospatiale et lui a fait faire beaucoup de voyages qui ont inspiré son univers. Petit Pierre, c'était une tête de travers, une tête de vipère, comme ses camarades pouvaient l'appeler, mais une intelligence extraordinaire, observateur des mécanismes agricoles, de tout ce qui l'entourait, amoureux des animaux. Et avec uniquement des objets de récupération, des boîtes en métal, des chambres à air, tout ce qu'il pouvait trouver, il construisait en gardant ses vaches des petits personnages, des animaux qu'il a assemblés pendant 43 ans de sa vie, pour finir par construire de façon empirique un manège, disons plutôt un carrousel, puisqu'on ne peut pas monter dedans, un carrousel qui a fini par faire l'admiration du public dans les années 70. Son manège était construit autour de sa maison, dans une ferme qui s'appelait La Coinche, et les gens ont commencé à parler de ce carrousel extraordinaire. et sont venus le voir faire tourner le dimanche après-midi et en ont parlé avec le bouche à oreille. Ça, c'est connu dans la région, en fait.
Et donc, ce carrousel est toujours visible aujourd'hui ? Il est dans un musée ?
Oui. En fait, quand Pierre Avezard est décédé en 1992, parce qu'il est quand même décédé assez vieux.
83 ans.
À l'âge de 83 ans. Il a été sauvé par un farfelu des années 70 aussi, qui s'appelait Alain Bourbonnais, et qui était architecte et créateur un peu fou, qui a créé un musée à Dissy, D-I-C-Y, entre Auxerre et Montargis, avec sa femme Caroline Bourbonnais. Et le manège, le carrousel, a été démonté pièce par pièce et remonté pendant plus d'un an, pièce par pièce, dans ce musée. Et il est toujours visible. On peut le visiter entre avril et septembre. Il y a donc le manège de Petit Pierre dans le jardin, mais il y a aussi quantité d'autres œuvres d'art brut et d'art singulier visibles dans ce musée.
C'est la fabuloserie, le musée.
Voilà, ça s'appelle la fabuloserie et c'est effectivement fabuleux.
Et donc, vous avez découvert l'histoire de Pierre Avezard. Comment vous avez construit ce spectacle ? Ensuite, vous avez été touché par son histoire. C'est une écriture collective, d'ailleurs, voilà, ce spectacle. Comment vous avez eu envie de la raconter, cette histoire ?
Alors, en fait, tout simplement, nous sommes allés visiter le musée un été avec nos enfants qui étaient petits à l'époque. Et on est tombé sous le charme de ce carrousel sur l'humilité du personnage. On s'est renseigné sur sa vie. On a pu découvrir un certain nombre d'émissions qui avaient été faites sur lui, qui sont encore visibles d'ailleurs, qu'on peut voir sur le net. Et avec notre metteur en scène, Odile Bouvet, qui est une fan absolue d'art brut, on a décidé de raconter son histoire en partant de l'art brut et en faisant un mélange de théâtre et de théâtre d'objets.
Et il y a également de la musique, c'est aussi musical. Pierre, c'est vous qui avez composé d'ailleurs ces morceaux, entre autres.
Une partie. Toutes les parties piano et aussi aidée de ma fille, Angèle, qui a fait deux morceaux aussi dedans, du piano essentiellement, et puis d'autres morceaux récupérés, quoi. Libre de droit.
Et alors, qu'est-ce qu'on va découvrir sur scène ? J'ai l'impression que ce décor que Pierre, vous avez construit, c'est un peu, vous nous emmenez un petit peu dans l'atelier justement de Pierre, du petit Pierre.
C'est ça, en fait, on est dans son atelier et grâce aux divers objets, on raconte son histoire de sa naissance à l'ouverture du manège au public. Donc ça couvre à peu près une quarantaine d'années. On le voit enfant avec sa maman au départ, puis avec sa sœur, les moqueries qu'il a vécues à l'école, puis celles qu'il a vécues aussi en tant qu'adulte quand il était garçon vaché. Et petit à petit, la construction de tous ces personnages, de tous ces mécanismes, une partie de ses voyages aussi avec Léon qui l'ont beaucoup inspiré, la Tour Eiffel qui l'avait reproduite avec du bois d'acacia, parce que c'est imputrescible. Il en a fait une qui fait 23 mètres de haut, qui est toujours visible dans le musée. Il a reproduit le Concorde, divers lieux qu'il a pu visiter en France et dans les pays limitrophes. Et on raconte son parcours avec très peu de mots. C'est un spectacle qui est très peu narratif, parce que lui-même déjà ne parlait pas, ou très très peu. Donc, les deux personnages qu'on voit dans l'histoire, lui-même et sa sœur Thérèse, qui a une petite partie narrative, mais très, très peu en fait. Tout s'explique sur le déroulé de la construction des objets avec la musique qui a une place importante aussi, effectivement, dans le spectacle.
J'imagine que la relation entre vos deux personnages, vous, Anne, qui jouez donc Thérèse, et vous, Pierre, qui jouez Pierre, le petit Pierre, est très importante aussi, mais finalement, pour exprimer quelque chose, pour créer cette relation dans la vraie vie comme sur scène, il n'y a pas forcément besoin de tant de mots que ça pour que ça existe.
Oui.
Il y a beaucoup de regards, beaucoup de bienveillance, en tout cas, c'est ce qu'on essaye de transmettre au public. qu'on imagine, parce qu'effectivement, évidemment, c'est une fiction, c'est un spectacle qui dure 3 quarts d'heure. On ne peut pas raconter la vie d'une personne de 83 ans en 3 quarts d'heure. Mais on a voulu essayer de pointer la bienveillance que sa famille, et notamment sa sœur, a pu avoir avec lui, l'aide qu'elle a pu lui apporter pour surmonter son handicap et construire cette merveille. À côté de ça, c'était quelqu'un qui était plutôt joyeux, qui était pas dans la dépression, qu'il avait des amis.
Un peu farceur,
facétieux.
Un poète, je pense aussi.
Et poète.
Je crois qu'il faut aller vers la poésie là-dedans. L'amour et la poésie, il y a quelque chose de très fort là-dessus. Donc.
Et la poésie est très perceptible sur scène, rien qu'avec le décor, mais avec toute cette mise en scène. Vous venez de le dire, la pièce aborde donc la question du handicap, sans en faire le sujet de la pièce non plus. On raconte avant tout l'histoire d'un personnage, qui il était. Vous nous l'avez dit, il avait donc des malformations, il était presque sourd et aveugle. Pour vous raconter la différence sans la pointer du doigt, c'est toujours autant important à notre époque. Comment ça se fait que la différence nous fait encore tant peur, d'après vous ?
Quelle large question. C'est assez drôle parce qu'en fait, quand on joue devant des scolaires, souvent on leur demande s'ils ont des questions. Et très souvent, les discussions partent sur effectivement le harcèlement que certains enfants peuvent connaître eux-mêmes, encore aujourd'hui. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'ils sont relativement bien informés, on le constate, sur le harcèlement et sur les réflexes qu'il faut avoir face à ça, qu'ils soient victimes ou qu'ils soient les causes. Et ça n'empêche tout de même pas que ça continue à exister, effectivement.
C'est une question qu'il faut toujours encore aborder, ne pas invisibiliser.
Exact.
Cette histoire que vous nous raconterez sur scène en mars fera briller les yeux des enfants, mais pas seulement, aussi ceux des plus grands. D'ailleurs, pour vous, c'est important que les plus grands aient aussi leur niveau de lecture dans une pièce qui, a priori, pourrait davantage être destinée aux enfants.
Exact. Alors, les enfants sont très attirés par tout le côté objet. Les plus petits aiment beaucoup les animaux et les bruits des tracteurs, des poules, des vaches.
La mécanique aussi, tout
et
ce qui bouge.
La mécanique pour... Alors, ça bouge, tout ce tout qui bouge. Est effectivement... puisqu'on finit un peu en apothéose avec le carrousel qui se met à fonctionner. Donc, avec des renvois mécaniques de courroies, alors nous ce sont des élastiques, hein, ce ne sont pas des courroies, mais les enfants sont assez émerveillés par ce manège qui tourne, et les adultes s'accrochent à la poésie et à l'histoire de ces deux personnages qui partagent quelque chose de très fort.
Alors en fin de spectacle, à chaque fois, après avoir salué, il y a toujours pas mal d'adultes, principalement des hommes, qui viennent voir la mécanique et comment ça fonctionne. Ils sont très très intéressés par les moteurs. Alors moi j'ai toujours une petite chose à dire, c'est que sur ce spectacle-là, j'ai 3 moteurs qui tournent, alors que lui il n'en avait qu'un et qui faisait tourner un truc qui est 50 fois plus grand que ce qu'on fait, quoi. Ça je tire le chapeau, avec des renvois, des trucs assez fous. Il y avait la même puissance à 25 mètres, à 2 mètres. Quoi. C'était, je ne sais pas comment il a fait. Il avait un sens du mouvement. Il avait compris le mouvement dans tous les sens. C'est-à-dire sur l'axe. Sur l'axe, ça tournait dans l'autre sens. Ça tournait aussi sur horizontalement. C'est assez fou.
Un spectacle, le décor prend vie, donc vraiment sur scène, et apporte même cette poésie, finalement, cette poésie que lui-même, Pierre Avezard, amenait dans ses créations. Je rappelle les dates de vos représentations. Ce sera le 4, le 5, le 6 et le 7 mars à 16h. Et le 6 mars, il y aura une deuxième représentation à 20h30, donc au studio à Laval. Où est-ce qu'on peut prendre nos places, Anne et Pierre ?
Alors, vous pouvez les prendre directement sur place, et vous pouvez aussi réserver au numéro de téléphone que je vais vous indiquer maintenant, 06 82 18 85 64 et vous tomberez sur moi-même ou par mail à l'adresse suivante moulinenherbe53@free.fr et moulin sans S en, au singulier, tout collé.
Et donc pour terminer cet échange, est-ce qu'il y a d'autres projets en cours pour la compagnie du Moulin en Herbe ?
Eh oui, parce que nous n'avons pas de production annuelle. Le Petit Pierre est un spectacle Covid.
2018,
il a pu enfin se montrer après les épisodes Covid qui nous ont tous enfermés chez nous. Et nous sommes sur effectivement un nouveau projet avec à trois comédiens cette fois, en théâtre d'objets encore une fois et théâtre d'ombre avec de la musique et la même metteur en scène.
Et donc on peut suivre toutes vos actualités de toute façon sur le site internet et retrouver tous vos projets en cours également.
Voilà, et sur Facebook également.
Ne pas hésiter donc à vous contacter et à réserver donc les pièces pour la mécanique, les places pour la mécanique de Petit Pierre le 4, le 5, le 6 et le 7 mars au studio à Laval. Merci Anne et merci Pierre d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci à vous de votre accueil.
Merci beaucoup pour ce moment passé ensemble. Avant de t'écouter pour l'actu en bref, Lucie, dans quelques minutes, je vous propose une pause musicale, mais c'est toi qui nous proposes le morceau, Lucie.
Et oui, moi je vous ai dégoté, un petit rap bien sympathique qui est sorti à titre posthume en 2020. On écoute le mystérieux Népal et son titre Cheddar.
C'est plus de cheddar, garder le contrôle t'as les Jedi, envoyer du fire comme Jedi. Pas besoin d'aller loin pour sentir le jet lag. On dit que le bonheur s'achète pas, que le chétan choisit bien ses chetka. J'suis dans la salle du temps avec un jetpack, donc en vrai ça m'aide pas à ressasser des 16 que j'connais cœur pas. Mon inspinant je l'ai pas trouvé terre pas. Né en levant les yeux au ciel, penser vers l'éternel, mais tout ça se trouvait là en face de moi. Si le monde est devant toi, t'attends quoi ma lugue. Retrouver des vrais sentiments, c'est ma reggae. Okay. Me battre pour désinstaller ce qu'ils ont mis en moi. Cette putain de flemme qui fait que je pourrais me laisser mourir sans m'arrêter. La volonté est là, cette âme, c'est pas celle d'un autre. La force qu'elle peut contenir chaque jour, frérot, you don't know. L'ennemi se retrouve adouci comme le whisky dans l'eau. Mes portes de sortie vers un monde meilleur, frérot, je les download. Y'a un espoir tant qu'on avance, tant qu'il restera une pensée contraire à la dominante. Tant qu'on pourra s'élever spirituellement, échappant aux forces abominables qui nous aliènent et font qu'on consomme le drame comme un condiment. On me complimente, mais je suis qu'un con moi qui a eu l'audace d'organiser le monde qu'il avait en continent. En combinant les lumières et les ombres, j'ai créé un bug dans le système et je compte bien le baiser en continuant. Fausser plus de cheddar, garder le contrôle t'as les Jedi, envoyer du fire comme Jedi. Pas besoin d'aller loin pour sentir le jet lag. On dit que le bonheur s'achète pas, que le chétan choisit bien ses chetka. J'suis dans la salle du temps avec un jetpack, donc en vrai ça m'aide pas à ressasser des 16 que j'connais cœur pas. Mon inspinant je l'ai pas trouvé terre pas. Né en levant les yeux au ciel, penser vers l'éternel, mais tout ça se trouvait là en face de moi.
Et c'est parti pour un petit coup d'œil sur les brèves. Pour commencer, vous avez sans doute eu l'occasion de remarquer que c'est difficile de se garer au centre hospitalier de Laval. Eh bien, c'est tout simplement parce que des travaux sont en cours sur le parking nord du centre. Il s'agit d'installer une ombrière photovoltaïque couvrant la centaine de places du parking qui devrait être prête pour la fin de l'été 2024. En ce moment, c'est donc la première phase des travaux du 12 au 23 février et ce sont les fondations de la fameuse ombrière qui sont posées. Au maximum, ce sont 90 places qui seront inaccessibles pendant cette période. Et l'idée pour les porteurs de projets et pour le directeur de l'hôpital Sébastien Tréguenard était de chercher, je cite, toutes les alternatives possibles pour cet établissement qui est très énergivore. Et là, les panneaux photovoltaïques devraient couvrir 5% des besoins électriques de l'établissement de santé. Sur le sujet des travaux, à Mayenne, la circulation va être interdite au niveau du numéro 413 de la rue du Terrasse entre mercredi 21 février et vendredi 23 février pour cause de travaux également de raccordement d'eau potable. À noter que ça pourrait également perturber la circulation le 26 février, lundi prochain. On revient sur les questions écologiques et énergétiques. Une soirée débat est organisée sur le thème de l'utilisation de la voiture thermique et de la voiture électrique. Pour être plus précise, cette soirée débat est organisée par le député Guillaume Garot et s'intitule « Se déplacer en milieu rural, comment réussir la transition écologique en Pays de la Loire ?» Cette volonté partait de l'observation que, je cite, « la voiture thermique reste la plus couramment utilisée » et Guillaume Garot ajoute dans les colonnes du Ouest France que, je cite à nouveau, « la voiture électrique est trop chère, les bornes de recharge trop rares et les transports en commun sont peu développés en dehors des agglomérations ». Fin de citation. Selon lui, c'est à la région de prévoir des solutions accessibles aux enjeux qui sont relevés. Ça se passera donc jeudi 22 février à 18h30, bâtiment 13 au quartier Ferrier à Laval, avec une entrée libre. Et tant qu'on est sur les enjeux écologiques, pour finir, samedi dernier, le 17 février, 10 membres et pêcheurs de la perche de Cham ont nettoyé les rives de l'Erve qui passe à proximité du village de Sainte-Suzanne-et-Cham sur une distance de 3 km au total. Et cette opération était en vue de l'ouverture de la saison de pêche en première catégorie qui sera le samedi 9 mars. Et c'est parti pour un petit point météo surprise, ça ne change pas beaucoup. On est toujours sur 10 et 11 degrés, aujourd'hui voire 12 degrés à Château-Gontier et à Cran. Dans le ciel, c'est toujours des nuages et des pluies éparses dans l'ouest du département, vers Saint-Germain-le-Guillaume ou Saint-Poix par exemple. Et ce soir, c'est tout simplement nuages partout sur la Mayenne, avec des 9 et 10 degrés. Puis dans la nuit, pas de jaloux, les pluies éparses reviennent sur tout le département. Ça continue d'ailleurs comme ça jusqu'à demain dans la nuit, et comme ça, c'est pas très compliqué à prévoir. Avec ça, Steven, il se dit qu'au moins, il peut continuer à porter sa super veste qu'il adore, celle qui est vert sapin, là. Et niveau température, demain, la journée commence à 9 ou 10 degrés, ça monte jusqu'à 12 degrés l'après-midi et on atteint même 13 degrés le soir à Mayenne, Laval ou Cran.
Soisic, que vous connaissez bien, voulait mieux comprendre les enjeux actuels de l'agriculture et a décidé de tendre son micro à Michaël Lepage, agriculteur à la ferme bio du Chéneau à Changé. Nous avons écouté hier la première partie de cet échange. Aujourd'hui, on continue. Écoutez.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu dans les grandes lignes ce qu'était ce plan Ecophyto, puisqu'on dit qu'il était trop contraignant pour les agriculteurs, quel était son objectif et aujourd'hui en quoi est-ce qu'il est remis en cause et est-ce qu'on ne serait pas là sur finalement des mesures de court terme par rapport à ce dont vous parliez, le bien commun qui lui doit se gérer à long terme?
Sur le plan Ecophyto, donc l'objectif du plan donc, s'était créé en 2008 de mémoire. On avait travaillé nous aussi Bamio sur le début de ce démarrage-là pour montrer qu'effectivement la nature biologique peut produire en limitant, puisqu'il n'y a pas d'utilisation de phyto. Donc, et l'objectif, c'était l'utilisation de réduction de 50% à échelle 2030 sur la base des années 2015-2017. Donc, divisé par deux, les quantités de pesticides, qu'il s'agit des insecticides, des maticides, des fongicides, enfin voilà, tout le cocktail, des biocides. Voilà,
tout ce qui est écocide.
Voilà, tout ce qui tue la vie, littéralement. Voilà, donc ça, c'était l'objectif. Donc, il y a des mesures, il y a des plans, il y a des programmes de formation, il y a des conseils, enfin voilà, il y a des structures qui sont là pour épauler les gens, enfin les agriculteurs, pour réduire. Donc il y a eu des travaux qui sont faits et on s'aperçoit au final, donc avec le fameux nodule, donc le nombre de doses utilisées, que sur une échelle de 2011-2021, on était plutôt sur une tendance en France à augmenter, on a augmenté de 3% l'utilisation des pesticides. Donc on a fait l'inverse de ce qui était programmé. Donc l'idée de la pause, là, elle est, pour moi, elle est assez malencontreuse parce qu'en fait, on va déjà contre le droit environnemental parce qu'on a des décrets quand même et puis le tribunal administratif de Paris nous a assommé la France de respecter ce plan-là. Voilà, et puis on est hors cadre de la directive européenne. Donc là, mon avis, dès le mois de juin, parce qu'il y a une date jusqu'au mois de juin, on verra comment vont se passer les choses. Mais je pense que certaines associations vont monter au créneau pour que la France soit dans les clous.
C'est ce que j'allais vous dire. La Confédération paysanne pourrait très bien aller voir le Conseil d'État et lui poser la question, ou voir même la Cour de justice européenne.
Oui, complètement. Après, il y a la Confédération paysanne, puis il y a plein d'organisations, je pense à Génération Future notamment, qui militent depuis de nombreuses années pour mettre en lien entre le monde agricole et puis aussi la santé publique. Et là, clairement, je pense que c'est un très mauvais signe. Moi qui reçois beaucoup d'écoles sur la ferme en visite, notamment en formation agricole, je pense que tout le travail qui a été fait par les enseignants depuis 10 ans avec le programme Produire Autrement, avec réduction notamment des pesticides, là, leur dire là on stoppe, c'est clairement un mauvais message pour l'enseignement agricole, en leur disant tout ce que vous avez dit depuis 10 ans, vous l'oubliez un petit peu, les élèves qui sont dans les salles de classe ou en pratique dans les fermes, c'est vraiment un biais de cognition. C'est-à-dire qu'il y a une dissonance complète en disant il faut produire plus, mieux, mais en fait, non, c'est pas grave, on fait une pause là sur les pesticides. Donc c'est un très très mauvais message. Et puis également sur tout ce qui est santé publique, tous les gens qui travaillent en cancérologie, on voit bien qu'il y a des dégâts sur la santé qui sont irrémédiables.
Si je reviens sur le bio, j'entends des personnes qui ne produisent pas de bio et qui disent oui, mais en bio, on ne pourrait pas, ce qu'on appelle nourrir le monde, on ne pourrait pas produire suffisamment. Qu'en est-il ? Est-ce qu'on pourrait définitivement remplacer l'agriculture conventionnelle par du bio ? Est-ce qu'il y aurait assez, finalement, pour alimenter tout le monde ?
Alors, c'est une question qui fait énormément de débats.
Mais oui, c'est ce que j'ai l'impression.
Dans plein de communautés, que ce soit syndicales ou scientifiques ou agricoles, ce que je peux en dire de mes lectures, ce que je peux vivre au quotidien, c'est personnellement, moi j'essaie de, ce que je vous dis tout à l'heure, de pas nourrir le monde, mais de nourrir le monde qui est à proximité de ma ferme. Ça, c'est vraiment un premier point. C'est-à-dire qu'on s'attache, nous, par nos modes de production, effectivement, on produit moins de volume, mais on va dire que si on a une vision plutôt holistique des choses, en prenant en compte la santé des humains, la quantité de calories, de protéines qu'on va mettre dans les assiettes, mais également la quantité de biomasse vivante, le respect de la biodiversité, de la qualité des cours d'eau, et j'en passe, on s'aperçoit que cette agriculture-là est pérenne sur le long terme. Elle demande moins d'aide publique, elle demande moins de coûts cachés, c'est-à-dire qu'on va avoir moins de dépenses du contribuable pour aller dépolluer les eaux, dépolluer l'air, combattre certaines maladies neurodégénératives ou reprotoxiques, comme on voit aujourd'hui, qui explosent. Donc tout ça, c'est un coût pour le contribuable qu'on n'affecte pas aux produits que j'appelle de masse, bas de gamme, et qu'on devrait imputer. Voilà. Ouais. Et nos fameux 1 à 2 degrés, on ne les comptabilise pas non plus dans cette agriculture qui aujourd'hui utilise des engrais, des pesticides de masse.
Donc si je vous comprends bien, on pourrait très bien envisager une agriculture totale en bio, mais en arrêtant de vouloir nourrir le monde pour la France, en faisant plus du local, je me dis finalement pourquoi pas, parce qu'on pourrait de fait avoir plus de fermes, plus de paysans et d'agriculteurs. Ce serait possible si on revisitait complètement le système agricole et si on s'assurait davantage d'une sécurité alimentaire nationale, voire régionale finalement.
En fait, indépendant de ce modèle agricole, c'est de ne jamais oublier ce qu'on mange dans nos assiettes. Et en fait, il faut jouer sur les deux tableaux. Il faut jouer à la fois à la production, avoir une agriculture qui soit plus respectueuse des milieux vivants et de la santé des humains. Donc ça, c'est le comment on produit. Et après, c'est le pour qui on produit, c'est-à-dire pour quelle fin alimentaire, quelle assiette, quel régime alimentaire. Oui. Est-ce qu'on vise les 3 ou 4 000 kilocalories chacun dans nos assiettes, ou est-ce qu'on a des régimes alimentaires plutôt végétalisés, un peu plus cohérents, moins transformés, moins ultra-transformés, avec un régime qui est plus réfléchi. Et on s'aperçoit que de nombreuses études, si je cite notamment celle de l'IDRI, l'Institut de Développement Durable et de Relations Internationales, qui s'appelle le TIFA, donc Years for Agroecology, qui a fait une modélisation d'Europe entière, 450 millions de consommateurs, nourris uniquement à base de, on va dire divisé par deux le régime de produits carnés ou d'un tiers, et puis moins de gaspillage alimentaire, et plus de végétal dans l'assiette globalement, et bien on s'aperçoit que l'agriculture biologique peut nourrir cette population-là. Donc, tout en gardant une capacité de production et d'exportation également pour les pays nord-africains. Enfin voilà, il y a toujours des flux d'exportation qui sont possibles, sans doute revisités et moins concurrentiels avec d'autres agricultures.
Vous écoutez l'Agité du local sur l'autre radio 107.9 à Château-Gontier et 101.7 à Laval. Et c'est le moment de la chronique du jour. Et comme chaque mardi, ce moment, on le passe avec Donatien, bien sûr.
Donatien n'aime pas particulièrement les jeux de société. Petits chevaux, Monopoly, Scrabble ne le passionnent pas, pas plus que le ni oui ni non ou le vrai ou faux. À la rigueur, une partie de belote, davantage pour l'ambiance, pour la chance et la rigolade. Pour les autres jeux de cartes ou d'adresse, il aime tricher. Mais il l'avoue, alors ça compte pas. Et puis, n'apprend-on pas très tôt aux enfants à tricher ? Lorsque l'on décide à l'unanimité de la fratrie de placer la fève dans la part du plus jeune, en cachette. Tricherie, mensonge, faux et usage de faux, voilà Donatien aujourd'hui sur le banc des accusés. Et c'est en toute bonne foi qu'il plaide coupable. Oui, monsieur le juge, je n'ai fait que mentir, user de faux semblants, parfois involontairement, lorsqu'inscrit au conservatoire, je suppliciais mon professeur, lui imposant les fausses notes qu'avec conviction je produisais en soufflant dans ma trompette. Bien involontaire aussi, lors des compétitions à la piscine ou sur le stade, les faux départ sanctionné d'un coup de sifflet aussi coercitif que désagréable. Et puis, je fus victime en cours d'anglais des faux amis, à l'internat des fausses alarmes, en vacances des camarades qui me faisaient faux bond. Je ne saurais, monsieur le juge, être condamné sur tous les faux semblants, les faux mouvements bien involontaires aux conséquences imprévisibles à mettre sur le compte de ma maladresse. En revanche, je reconnais dans mon existence et en toute connaissance de cause avoir installé chez moi un faux plafond, avoir porté un faux col sous mon veston pour faire bonne impression, avoir commandé chez le boucher une pièce de faux filet. Je reconnais avoir joué les faux modestes pour quérir en retour quelques compliments de la part de ceux qui peut-être n'étaient que des faux culs. Peut-être par omission, plus ou moins désinvolte, m'est-il arrivé de faire au fisc ou à la douane une fausse déclaration. Je reconnais avoir fait fausse route dans bien des domaines, m'être lâchement comporté en faux frère, et je laisse à votre appréciation le soin de prononcer ma peine après avoir démêlé le vrai du faux. Enfin, ne soyons pas sévères avec les faussaires bien involontaires que sont les faux jumeaux. Ainsi, ce chanteur populaire, militant du Parti des Oiseaux, qui nous a tant émus, avec sa mobilette, sa casquette de gavroche, son auto-tamponneuse et ses Mistral gagnants. Né à 10 minutes à l'intervalle, David et Renaud, ces faux jumeaux, se sont aimés et s'aiment encore pour de vrai.
Monsieur le Président, je vous fais une bafouille que vous lirez sûrement si vous avez des couilles. Je viens de recevoir un coup de fil de mes vieux pour me prévenir que les gendarmes s'étaient pointés chez eux. J'ose pas imaginer ce que leur a dit mon père, lui, les flics, les curés, et puis les militaires, les a vraiment dans le nez, peut-être encore plus que moi, dès qu'il peut en bouffer, le vieil anard, il se gêne pas. Le vieil anard, il se gêne pas. Alors il paraît qu'on me cherche, que la France a besoin de moi, c'est con, je suis en Ardèche, il fait beau, tu le crois pas, je suis là avec des potes, des écolos marrants. On a une vieille bicoque, on la retape tranquillement. On fait pousser les chèvres, on fabrique des bijoux. On peut pas dire qu'on se crève, le travail c'est pas pour nous. On a des plantations pas énormes, 3 hectares. D'une herbe qui rend moins con, non c'est pas du Ricard. Non c'est pas du Ricard. Président, je Je suis un déserteur de ton armée de glands, de ton troupeau de branleurs. Ils auront pas ma peau, toucheront pas mes cheveux, je saluerai pas le drapeau, je marcherai pas comme les bœufs. J'irai pas en Allemagne faire le con pendant 12 mois, dans une caserne infâme avec des plus cons que moi. J'aime pas recevoir des ordres, j'aime pas me lever tôt, j'aime pas étrangler le borgne plus souvent qu'il ne faut. Plus souvent qu'il ne faut. Puis surtout ce qui me déplaît, c'est que j'aime pas la guerre. Mais qui c'est qui l'a fait? Ben c'est les militaires. Ils sont nuls, ils sont moches et puis ils sont teigneux. Maintenant je vais dire pourquoi je veux jamais être comme eux. Quand les Russes, les ricains font péter la planète, moi j'aurai l'air malin avec ma bicyclette, mon pantalon trop court, mon fusil, mon calot, ma ration de topinambour et ma ligne Maginot. Et ma ligne Maginot. Gonfle pas, ni moi, ni tous mes potes. Je serai jamais soldat, j'aime pas les bruits de bottes. T'as plus qu'à pas t'en faire et construire tranquillos tes centrales nucléaires, tes sous-marins craignos. Et va pas t'imaginer, monsieur le président, que je suis manipulé par les rouges ou les blancs. Je ne suis qu'un militant du parti des oiseaux, des baleines, des enfants, de la terre et de l'eau. De la terre et de l'eau. Pour finir ma bafouille, je voulais te dire simplement que ce soir on fait des nouilles. À la ferme c'est le panard, si tu veux viens bouffer. On fumera un pétard et on pourra causer. On fumera un pétard et on pourra causer.
C'était Le Déserteur de Renaud sur l'autre radio, la JT du local. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à Anne Chamaret et Pierre Chauveau d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à Donatien et merci à toi Lucie. Pour nous, c'est terminé, mais ça continue sur l'autre radio et votre soirée commence à 19h.
Et oui, Margot, avec Sorcières qui disent stop à l'amorosité et aux mauvaises nouvelles. Les sorcières vont mettre de la douceur et de la bonne humeur dans votre radio et militent ce mois-ci pour le bonheur auditif. Anna, aujourd'hui, chronique le journal L'Âge de Fer. Cécile reste sur le credo de l'humour. Elle est allée interviewer Mao Drama à Paris. Louane nous envoie du rêve pour se préparer au JO 2024 et Morgane chronique Santigold et sa musique fusionne avec la bonne humeur qui flotte dans le studio.
Une très belle émission nous attend pour ce début de semaine. Elle est suivie de Frères de Chaussures à 21h.
Et oui, la soirée continue avec notre émission sur le rap français et elle nous est proposée par Fatshu.
Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve demain pour une nouvelle émission de l'Agité du local et nous serons en compagnie de l'association Main Tendue qui la semaine dernière a tenu une conférence sur la prévention du mal-être et du suicide chez les jeunes après la représentation du spectacle Fragile à Arquenay. Nous reviendrons ensemble sur cet événement. D'ici là, bien sûr, restez à l'écoute de l'autre radio. Faites du bien à vos oreilles et surtout, faites le bien.
Mimi, tu crois que c'est fini?
Quand elle dit au revoir, bah, c'est que c'est terminé.